France Culture.
Bonjour Noah Baz.
Bonjour Caroline Brouet.
À voix nue, épisode 2, le Beyrouth des années 1970. On va parler de vos premières années libanaises et de la bascule de la guerre en 1975. Autrement dit, dans cet épisode, il va y avoir deux temps, un avant et un après. Commençons par l'avant. L'avant-guerre encore, qui est une sorte de suite de la première émission avec vous. On vous a laissé, vous étiez à la gare, vous quittiez Alep vers Beyrouth, ne sachant pas que vous ne reviendriez pas de sitôt à Alep et que le déménagement était en fait un exil. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de votre arrivée à Beyrouth, sachant que vous aviez à peine 6 ans ?
Oui, bien sûr, le premier souvenir est terrorisant, puisque je suis arrivée à la gare, il n'y avait personne qui m'attendait. Ma mère n'avait pas reçu le télégramme disant que j'arrivais à cette heure-ci. Donc la religieuse qui était avec moi, il y avait une voiture qui l'attendait, elle a été obligée de quitter. Et je suis restée seule pendant à peu près une demi-heure. C'était la gare de Fern Eshebak, c'est-à-dire c'est la proche banlieue de Beyrouth, mais le chauffeur qui devait venir me chercher, Toufi, donc qui travaillait déjà dans l'entreprise de mon père, n'avait pas compris qu'il fallait venir à ce moment-là. Et finalement, il y a une dame qui s'est approchée, qui m'a vue seule avec... j'avais pas beaucoup de bagages, j'avais juste un petit sac à main et le Mickey. Et j'ai expliqué. Quasiment 2 heures. Alors, elle a été m'acheter très gentiment une manouchée, donc un petit déjeuner. J'avais pas faim, j'étais inquiète, mais je me disais, bon, bah, ils vont finir par venir. Et ma mère est arrivée en larmes à 9h du matin, donc 2 heures après que je me sois arrivée à peu près, et en me disant, mais j'ai pas compris, j'ai pas reçu le télégramme et tout. Et donc, j'ai fait la connaissance de la nouvelle maison. Il y avait tout ce qu'il fallait, tout le confort et tout, mais c'était très différent de la maison où j'ai été élevée. Et je crois qu'ensuite, mon père a passé sa vie à essayer de trouver quelque chose pour suppléer à cette maison qu'il a laissée en partant, malgré lui, à cause du régime. Donc, l'arrivée dans cet appartement...
Rue Abdelwahab ?
Non, Abdelwahab, c'était la maison, voilà, plus tard. C'était un des immeubles qu'il avait construit. Donc, parce qu'il passait son temps à construire des choses, forcément. Il était entrepreneur, il avait une très, très grosse entreprise qui a fait, entre autres, une partie de l'aéroport, une partie de l'ancien aéroport de Beyrouth, qui a fait les rest houses, ce qu'on appelle les maisons dans le sud. Voilà. Et donc, le seul point positif de cet appartement, c'est que je pouvais aller à pied à l'école, ce qui était pour moi une première. On ne m'avait jamais laissé jusque-là faire un pas dans la rue seule sans être accompagnée de quelqu'un. Donc j'avais la permission, à l'heure du déjeuner, de revenir seule de l'école à la maison. Ça devait faire 200 mètres à pied. Et c'était une victoire, donc, de pouvoir se balader. L'école des franciscaines était au bout de la rue. Et puis, il y avait Notre-Dame des Anges. Je trouvais ça absolument poétique. C'était la paroisse qui était collée. C'est beaucoup comme ça au Levant. C'est-à-dire que les gens aiment bien être près d'une paroisse ou d'une mosquée, suivant leur appartenance. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Mais dans le temps, ça se faisait comme ça. Et sinon, l'appartement était au-dessus d'une librairie. Donc ça, c'était sympa.
Vous parliez dans le premier épisode d'une éducation très stricte. Vous avez même employé le terme de dictature dans l'éducation que vous avez reçue.
Dictature d'excellence. C'est-à-dire qu'on avait une obligation.
Beaucoup d'exigences,
oui. Ça, c'était vraiment quelque chose d'incontournable.
Et vous disiez que vous étiez comme vous étiez l'aîné, il fallait que vous montriez l'exemple. Vous aviez une responsabilité particulière. Est-ce que le fait d'être une fille a joué d'une façon ou d'une autre?
Alors, pour mon père, pas du tout. Mon père, pour lui, il n'y avait aucune différence fille-garçon. Et ça, au Levant, je pense que c'est une bénédiction. Parce que c'est un régime patriarcal, c'est un régime où la femme doit jusqu'aujourd'hui trouver sa place. Au Liban, par exemple, la femme libanaise, jusqu'aujourd'hui, ne peut pas donner la nationalité, elle ne peut pas transmettre sa nationalité libanaise à ses enfants. Mon père était un avant-gardiste et un visionnaire à tous les points de vue. Tout d'abord, aucune différence. Mes filles font ce qu'elles veulent, le métier qu'elles veulent, elles choisissent ce qu'elles veulent. C'était déjà une révolution parmi son cercle d'amis, de gens lettrés. C'était pas seulement, par exemple, j'avais choisi de faire médecine. Je me souviens encore de conversations à la maison où, entre le digestif et le dessert, on lui disait, mais quelle idée, pourquoi elle veut faire médecine, mais c'est long, qu'elle aille faire un voyage de noces avec, ce sera plus agréable. Alors mon père leur disait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il était très fier, en tout cas. Ça je le sais, parce que plus tard, c'était très touchant de retrouver parmi ces papiers, ces documents, en fait, tous les articles de presse que j'avais eu tellement d'interviews, j'avais été première au bac, autant le dire, donc bon. Et donc, il était très très fier, mais jamais il ne me l'aurait dit. Enfin, je le sentais. Et quelque part, la réussite d'une fille, il disait parfois que c'était une double réussite. Et c'est vrai qu'il fallait prouver quelque chose. Et c'est pas seulement lui, c'est-à-dire la société après, me l'a également démontré. En médecine, quand j'ai passé mon internat, souvent, bon, on faisait ce qu'on appelle des conférences, c'est-à-dire nous avions la sémiologie ou une matière, et il fallait donner une conférence autour d'un sujet. Et ben, mes profs me regardaient, mais ils m'écoutaient pas. Et très souvent, j'étais là à leur dire, mais qu'est-ce que je viens de dire à mes profs? Parce qu'il y avait un petit côté bien présent, quand même, misogyne c'est pas une légende. Hein. Moi, j'ai eu des profs qui ont essayé de m'embrasser, qui me lançaient des blagues grivoises pendant qu'on était en train d'opérer. C'était pas forcément très sympathique. Il y avait un machisme très très présent en médecine, et ça, personne n'en parle. Alors j'en ai entendu de toutes les couleurs, forcément. Et puis après, vous avez un masque, vous avez des gants, vous êtes au bloc opératoire, vous avez votre prof d'orthopédie qui vous fait du pied sous la table, et puis vous avez envie de l'envoyer balader. Et je ne parle pas de l'internat en pleine guerre. Parce que là, il n'y avait plus aucune norme. Tout avait sauté pendant la guerre. Il n'y avait plus de digue. Il n'y avait plus de morale. La guerre faisait en sorte d'effacer tous les barrages. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement sous pression qu'ils pensaient que tout leur était permis. Mais j'avais appris à me défendre très tôt. Ça aussi, c'était dans mon caractère. C'est-à-dire que...
Peut-être aussi dans la confiance que vous avez donnée vos parents.
Oui, le regard de mon père et de ma mère aussi, mais surtout mon père m'a énormément portée, il me porte encore. C'est-à-dire qu'il me disait... Tout est possible. Fille, garçon, il n'y a pas. C'est des idées, tu fais ce que tu veux. Ma mère avait un côté très doux, très féminin, très élégant. Parce qu'en Suisse aussi, j'ai entendu, mais pourquoi tu fais un métier d'homme ? Je disais, mais c'est pas un métier d'homme. Être médecin, c'est pas un métier d'homme, c'est un métier de femme aussi. C'est une autre façon de voir la vie et les choses. Et beaucoup de personnes, j'ai soigné énormément de personnes au Liban parce que j'étais femme. Pédiatre femme. On ne met pas assez l'accent sur le fait qu'être une femme, ça peut être également un moyen, une arme, parfois. On le dit pas assez.
Ça viendra peut-être.
J'espère que ça va venir. Et en plus, je viens d'une région du monde où une femme, c'est comme si c'était un deuxième citoyen. Et mon père voulait prouver, peut-être parce que j'étais l'aînée, peut-être parce qu'ils avaient eu du mal à avoir des enfants, que fille ou garçon, c'était exactement la même chose, c'était même mieux d'être une fille.
Bah. Alors revenons, Nora Baz, à ce Beyrouth des premières années 70. Vous arrivez en 1968. À quoi ressemblait la ville en 1968 ?
C'était un rêve. Beyrouth, mon premier souvenir, c'est ce dessert, la mohalla billet, qui est une espèce de panna cotta à la fleur d'oranger sublime, devant la mer. Nous étions dans un restaurant avec le bruit des vagues, le roulis des vagues, le coucher de soleil, ce dessert fabuleux. Il y avait un joueur de oud, c'est ce luth sublime, voilà. C'était d'une douceur inouïe. J'ai adoré Beyrouth, tout simplement parce que Alep, c'est pas au bord de la mer, c'est tout à fait une autre ambiance. Alep, c'est médiéval, ça a un petit côté renfermé, médiéval. C'est des pierres ocre et rose qui vous parlent le soir en paillettes. C'est tout à fait une autre poésie. Alors que Beyrouth, c'était l'odeur de la mer, c'était la puissance de... Ça avait encore ce charme désuet qui était extraordinaire. Aujourd'hui, Beyrouth n'est plus du tout comme ça. Il faut pas rêver. Beyrouth, aujourd'hui... La mer est toujours là, mais c'est pas pareil. Elle est, on a bâti la mer. Il y a une expression en arabe, quand on veut envoyer balader quelqu'un, on lui dit « Rouh ballet el bahar », c'est-à-dire « va, essaye de mettre du plâtre sur la mer et de mettre des plaques de béton ». Eh ben, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ont empiété de 40 kilomètres à l'intérieur de la mer. C'est bâti n'importe comment. Il n'y a aucune norme d'urbanisme, malheureusement. Il y a des poubelles à l'air libre. C'est... Beyrouth garde son charme la nuit. Parce que la nuit, on ne voit pas tout ça. On voit la beauté. Moi, j'ai un œil qui est très porté à regarder le beau. Ça aussi, ça fait partie des ordonnances que je fais tous les jours. Comme une pistache que l'on épluche pour arriver au cœur de cette pistache, il faut décortiquer la laideur et garder le beau. Ça, c'est ma façon d'être. Je ne l'impose pas.
Disons qu'il y a des moments où c'est peut-être plus difficile que d'autres d'y arriver, en particulier quand vous aviez 13 ans, parce que, quand même, la même année, vous rencontrez celui qui va devenir l'homme de votre vie,
oui.
Patrick. Bon. Mais l'année 75, c'est aussi l'année où éclate la guerre.
Alors
Liban,
oui, alors,
vous avez 13 ans.
J'ai 13 ans, nous étions ce week-end-là dans l'une des maisons de montagne, dans le sud. Et cette maison, je l'adore jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les forêts sont en train d'y brûler, malheureusement. Et nous n'avions pas entendu, parce que pendant le week-end, c'était stop, les nouvelles, stop tout, on s'immergeait dans la nature et tout ça. Donc, nous n'avions pas eu vent de cette histoire de Bosta, de ce bus qui avait été agressé. Sur la route du retour, je me rappelle encore de la musique de Radio Monte Carlo. C'était ta-ta-tam, ta-ta-tam, on entendait les nouvelles, et puis ce flash info, un bus à Aïna Remene, dans la banlieue chrétienne, a été attaqué, il y a des dizaines de morts. C'était le 13 avril 75, c'était un dimanche, et là, je me souviens encore de la réaction de ma mère qui lance une insulte en français, ça recommence. Donc, elle avait senti. Alors, mon père qui dit non, c'est peut-être un incident de parcours. Sauf que l'incident de parcours, le lendemain matin, l'autocar qui nous emmenait à l'école, privée, catholique, machin, n'était pas venu. Au départ, on s'est dit, chouette, il n'y a pas école. Mais après, on a compris que c'était bien plus grave que ça. Deux jours plus tard, donc le 15, mon père dit, ça va très mal, il faut absolument remonter à la maison de la montagne. Et là, Beyrouth était entouré de barrages, de militaires. Alors, on ne savait plus, c'était des factions armées, on ne savait plus à qui. Le chaos a commencé à ce moment-là.
En fait, il n'y avait pas d'informations que vos parents pouvaient écouter ou c'est
il y avait l'information.
Votre œil d'enfant qui parle là.
Non, mon œil d'enfant, personne mais également... Si, on savait qu'il y avait eu cet incident,
oui.
Mais
oui.
On ne savait pas les répercussions que ça pouvait avoir. On savait qu'il y avait eu une prise d'armes entre les phalangistes et donc Pierre Gemayel, le parti politique de Pierre Gemayel, et les factions palestiniennes. On savait qu'il y avait des morts, on savait qu'il y avait eu beaucoup de sang qui avait coulé, des insultes. Beyrouth était très armé déjà. C'est-à-dire qu'il était, banal pour nous de nous balader dans les rues à Beyrouth et de voir des personnes armées. Et les phalangistes avaient leur bureau pas très loin de la maison. Nous habitions pas loin de ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre le nord et le sud. Il y avait déjà des prémices à la guerre. J'étais censée aller au collège protestant. Le collège protestant, c'était un collège très huppé.
Après l'école catholique, le collège protestant.
Oui, parce que pour...
Ça non plus, c'est pas banal.
Non, mais c'est équitable parce que comme ma mère avait reçu là également le côté anglican, le collège protestant était une appellation parce qu'il était géré par la mission laïque française, mais c'était plus ordonné que le lycée français.
D'accord.
Non, j'étais inscrite là-bas, mais comme c'était de l'autre côté de la ville, donc ce qu'on appelait l'Ouest, eh ben, mon père a changé d'avis. Je me suis dit, tiens, ça lui ressemble pas de changer d'avis. C'est quelqu'un. Pourquoi il a changé d'avis? Parce qu'en fait, il sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Beyrouth bouillonnait déjà. Il disait, nous sommes sur un volcan. nous avons quitté la ville la nuit, parce que mon père a dit, c'est plus sûr. Et
vous étiez quand même encore très jeune, hein. Vous aviez 13 ans.
Oui.
Je ne veux pas vous faire replonger dans des souvenirs qui sont douloureux, mais...
12 ans, j'avais 12 ans.
Vous aviez, 12 ans, 12, 13 ans. Quand vous vous revoyez dans cette voiture, avec votre famille, il reste quoi comme image? Il reste quoi comme sentiment?
Il reste un sentiment de fuite. Et c'était la première fois que je vivais ça. L'exil d'Alep à Beyrouth s'était passé, dans un carrosse doré, je vais dire. Il y avait une maison qui attendait, qui était déjà là, tout était en place. Il y avait juste le petit hic à l'arrivée de Beyrouth, qui a été quand même assez traumatisant pour l'enfant que j'étais. Cette impression d'urgence, je l'ai vraiment sentie ce jour-là. Parce que d'habitude, quand nous prenions en famille la route du Sud, c'était joyeux. Nous allions vers le soleil, c'est comme la Nationale 7 ici, nous allions à la maison de montagne du sud que j'adorais, où il y avait des vergers énormes autour, où je passais mon temps à grimper aux arbres, à m'écorcher les genoux, à faire le garçon manqué, comme on disait. Et là, c'était l'ambiance était complètement différente, c'est-à-dire on y allait la nuit. Nous y allions chargés comme pour un départ, on ne savait pas combien de temps nous allions rester. Et en plus, il y avait cette peur sourde qui était là. Il y avait ces barrages qu'on n'avait jamais vus encore à Beyrouth. 17 barrages, quand même. On s'est arrêté 17 fois. Ces miliciens qui étaient cagoulés. J'avais jamais vu de miliciens cagoulés à 12 ans dans le quartier chez nous. C'était entre une mosquée et une église. Mais ça, c'était mon père qui avait vraiment choisi ce coin pour dire que les humains, c'est multiple et tous différents. Et ce n'est pas des ghettos et des appartenances. Et donc, au moment où ils ont fait descendre, ils nous ont fait descendre de la voiture, je ne sais même plus c'est quelle faction armée qui était là. C'était à la hauteur d'un village qui s'appelle Saadiyat. Il y avait un barrage avec des éléments armés. Et puis, des intonations d'accent que je ne connaissais pas. Au troisième barrage, on a eu vraiment très, très, très peur. Mon père, il conduisait. On nous a arrêté à un barrage. On lui a demandé sa carte d'identité. Il portait un nom et c'est pour ça qu'il a toujours insisté pour qu'on donne des noms qui ne témoignent pas de l'appartenance religieuse. Il disait que donc il nous a donné des prénoms. Nora, on peut pas savoir si c'est chrétien ou musulman. Mais après, si on rajoute Marie derrière, qui est mon nom de baptême, et voilà, vous allez trouver que c'est une appartenance. Donc lui, son nom, il s'appelait Victor, mais son nom en arabe, c'est Zafer. Ça veut dire Zafer, ça veut dire le victorieux. Donc, les gens voyaient son nom et ils avaient un doute. Et puis ils voyaient où il était inscrit et ils voyaient que c'était le sud, Jézine, le plus vieux cadastre de la ville. Et ils disaient, bon, Jézine, ça a l'air chrétien. Et à un des barrages, ils nous ont fait tous descendre de la voiture. Ma mère pleurait, ma petite sœur hurlait. C'était vraiment un moment très, très sombre. Mais après, il leur a expliqué très gentiment qu'il prenait sa famille à la montagne, parce que la maison... Il a dit les choses telles qu'elles étaient, et ils nous ont laissé passer. Ça, c'était un souvenir qui a été, cette année-là, très fort. On arrive à la maison de montagne, le téléphone marchait, c'était déjà un miracle, donc fonctionnait, comme on dit, et donc... On appelait les gens qui étaient restés à Beyrouth pour avoir des nouvelles des événements. Alors pour nous, c'était les événements. Vous avez vu ce qui s'est passé, les événements. Donc parce que on n'arrivait pas dans ce village à recevoir la presse à cause des donc la presse quotidienne, notamment L'Orient Le Jour qui était en place déjà, notre fierté nationale au Liban.
Tous les le éléments. Grand journal.
C'est le grand journal, en fait. C'est franchement, il a le mérite, il a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps, il a le mérite d'avoir tenu le cap avec, malgré tout, les épisodes de la guerre. Et donc, dans cette montagne, Jézine, donc le sud du sud Liban, où il y a des forêts de pins absolument magnifiques, Il n'y avait plus la presse française qui arrivait. Donc déjà, ma mère était un peu totalement déboussolée encore plus. Il y avait les stocks de elle et de Marie-Claire et de tout ce qu'elle lisait. Et puis, il y avait beaucoup de livres. Et c'est là où j'ai plongé dans Camus des deux mains. Et j'avais lu La Peste de Camus après cette nuit de fuite. C'était très, très dur. Et je me souviens de ma sœur qui a tenté de le lire et qui m'insultait en me disant « Qu'est-ce que tu es en train de lire? C'est horrible !» Et ça lui donnait des nausées tellement fortes qu'elle n'a jamais pu finir le livre. Voilà, moi, j'en garde. Cette nuit de terreur, je l'oubliais. Enfin, apparemment, je l'avais oubliée. Je l'avais rangée dans un coin de ma mémoire. Parce que ça, c'est une de ma façon d'être. J'occulte ce qui est laid et ce qui est traumatisant pour avancer. Parce que sinon... Voilà. Quand on regarde en arrière, la vie, c'est devant, pas derrière. Voilà. Nous avons atterri ensuite à Genève avec le déclenchement de la guerre en septembre 1975. Tout avait sauté. Il y avait des barrages, le centre-ville était à moitié rasé. C'était des combats sans arrêt. Le cursus scolaire, tout ce qui faisait la normalité d'une ville avait sauté. Et mon père... C'est là où, sans nous dire, il était déjà venu à Paris et la maison de Genève était là-bas. Enfin,
la prévoyance et peut-être la richesse de votre famille vous ont sauvé.
Oui, certainement.
Parce que vous avez pu fuir avec vos parents à Genève, oui. Avant de vous installer à Paris, oui. Nora Baz. C'est là que vous allez faire des études de médecine. On en parlera bien plus longuement dans l'épisode suivant. Mais vous n'êtes pas partie tout de suite, Nora Baz. C'est-à-dire que vous avez quand même connu des mois et des mois de guerre, de jours sans école, de nuit avec des abris.
Oui, et pas seulement ça.
Les abris, pardon.
Alors, qu'est-ce qui se passait? Donc, cette nuit-là, nous avons fui à la montagne. Nous sommes restés à peu près 3 semaines à la montagne. L'année scolaire était foutue. Et en septembre de 1975, on atterrit à Genève. Nous atterrissons à Genève, donc la maturité suisse, qui est le bac, ça s'appelle la maturité suisse, ne prépare pas à médecine. C'est tout à fait un autre cursus. Donc là, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à Paris, tu fais ton bac à Paris, et puis bisous, clink, il y a une accalmie à Beyrouth. Il dit, le plus simple, finalement, on va rentrer à Beyrouth. Tu parles. Nous rentrons à Beyrouth, c'est des valises tout le temps. Nous arrivons à Beyrouth, c'était début décembre. C'était l'année du bac. Et c'est là que je découvre que l'école des jésuites avait ouvert une succursale. Parce qu'au Liban, c'est toujours comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un coin du pays. Hop, on ouvre une succursale dans un autre coin du pays. Donc, en fait, les jésuites avaient ouvert à 300 mètres de la maison, un peu plus haut. Je dis, mais voilà, ils sont là, donc je vais aller suivre. Et puis, c'est une école, c'était la première fois que les jésuites, c'était une école mixte. Parce qu'avant, c'était les écoles de filles, les écoles de garçons. Donc, c'était pas... J'ai été dans cette école, donc, chez les jésuites, pendant 3 semaines. De nouveau, un épisode hyper violent, boum, Paris. Finalement, mon bac, je suis rentrée à l'école de médecine sur concours, sans mon bac. Et j'ai passé mon bac à la fin de ma première année de médecine. J'ai fait les deux en même temps. Et c'est qu'est-ce qui m'a valu ça? La physique-chimie. La physique-chimie, c'est la cuisine. C'est-à-dire que tout, finalement, prend sens. La physique-chimie, j'ai toujours eu une passion pour cette matière, mais vraiment une vraie passion, quoi. Donc, j'avais préparé mes cours. On avait évidemment des professeurs qui revenaient encore une fois à la maison. Mon père qui nous aidait un peu comme il voulait. Mais moi, je travaillais seule et j'ai eu mon bac avec... une excellente note en physique-chimie, une nulle en maths, parce que, voilà. Mais la physique-chimie et la philo, j'avais eu la plus haute note de toute la session, et j'étais première au bac.
C'est marrant, cette fois.
Mais c'est incroyable
de tourner l'histoire en regardant ce qui a pu vous servir,
oui.
Plutôt qu'en regardant les malheurs
de
la guerre.
Parce si que je vous raconte...
Dites, c'était quand même des moments... Vraiment difficile.
Oui.
Quand je vous cite « Dont il n'y a pas de honte à préférer le bonheur », vous écrivez « Cette guerre restera à jamais synonyme de départ précipité, de paniques incontrôlées, de déchirements familiaux et d'exil.
Oui.
Une valse ininterrompue d'aller-retour entre la Suisse, la France et un Liban morcelé. » Vous êtes pudique.
Oui, j'ai peut-être le don de trouver la chose qui est rigolote, on va dire, dans les pires moments. Pour vous dire, par exemple, comment j'ai passé mon bac, c'était l'épreuve de maths, justement, et bombardement surprise, alors que nous étions, soi-disant, c'était une accalmie. Je me retrouve à plat ventre avec les 5 personnes de la salle, dont un monsieur, qui est aujourd'hui un banquier très, très respecté, qui repassait son bac pour la 2e fois et qui a fondu en larmes. Et je regardais Elias et je lui disais, mais attends, c'est pas la peine, c'est pas grave, on va y arriver. Alors j'ai griffonné ce que j'ai pu griffonner en maths, je crois que j'avais eu 4 sur 20 en maths ou un truc dans le style. Mais la physique-chimie avant, ça a été incroyable. Ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la vie, je sais pas quoi, aussi pareil, voilà. Ça, je parle pour le bac français, parce que nous, on avait un bac français, un bac libanais. Donc, le bac français, je fais les matières importantes. La question de philo, c'était qu'est-ce qu'un objet d'art? Et là, je crois que ce que j'ai raconté a dû plaire énormément. Et ça, plus la physique-chimie, plus le... ça fait que j'ai eu mon bac avec mention. Voilà. Alors que j'aurais pu rester avec les bombardements par terre, quoi. Mais après, je n'ai vu que le côté rigolo de la chose. Qu'est-ce qu'un objet d'art? Et j'avais écrit, je me souviens encore, qu'un gâteau au chocolat fait avec amour et d'une certaine manière, c'est également de l'art. Que l'art est partout. Enfin voilà, je m'étais lâchée. Et voilà, je garde ce souvenir-là. Et la veille, j'avais eu une migraine épouvantable la veille du bac. Parce que nous étions venus de la maison du Sud, justement pour tenter de passer le bac. Et j'étais venue seule avec mon père. La famille était restée à la montagne. Et il m'avait lu des textes de Diderot. Et c'était beaucoup d'affection. Et puis le matin, il me dit « mange du zaatar ». Mange du zaatar, il était 6 heures du matin, je disais papa, il m'a dit mange du zaatar, ça ouvre l'esprit. Et puis après, ça va aller. Il était sûr que ça allait aller. Et ben ça a été. Voilà.
Merci Noah Baz pour cet épisode. Je pense que la suite, c'est-à-dire en même temps le bac et la première année de médecine, on l'abordera dans l'épisode suivant, puisque c'est quand même à Paris que vous allez commencer vos études de médecine, mais on l'a bien compris, vous faites des allers-retours entre Paris et Beyrouth. Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant, l'épisode 3. Mama méditerranéenne.
Oui.
À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Noah Baz, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Loïc Duros, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.